Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Passez à l'acte. Vous voulez créer une boîte, faites-la. Vous voulez créer une asso, faites-la. Ne vous posez jamais la question des moyens. Les moyens arrivent toujours pendant qu'on agit. Si on pense qu'il faut réunir des conditions, qu'il faut avoir le bon diplôme, qu'il faut avoir je ne sais quoi, on est fou. Il faut d'abord agir. On commence quelque part. Au fond, ce n'est pas très important ce qu'on va faire en premier. Ça engage beaucoup moins que vous ne le pensez. Faire, tout de suite. Là, vous éteignez, hop.
Alexandre Jardin est un fou de vie. Après un drame à l'âge de 15 ans, il comprend très vite qu'il est possible de vivre vraiment, pleinement, et plus qu'une possibilité, c'est pour lui devenu une nécessité absolue que de vivre en fuyant la demi-mesure et en passant à l'acte. Il décide alors de faire de la place pour que le meilleur surgisse dans sa vie et devient auteur dès l'âge de 20 ans. Il n'attend pas pour faire, il fait. Il demande de l'immense pour avoir de l'immense, ne se pose jamais la question des moyens, mais agit pour être à la hauteur de ce que la vie a à nous offrir. Aujourd'hui, Alexandre Jardin a publié une vingtaine de romans et est l'un des auteurs de la langue française les plus lus. Par ses divers engagements et coups d'audace, il contribue à la construction d'une société porteuse d'espoir lucide. Alors cet épisode est une boule d'énergie et de vie, d'amour, de niaque et d'optimisme. Alexandre décape toute hésitation à la peur d'oser être soi et vous terminerez cette écoute avec une envie débordante d'oser vivre en passant à l'acte, là, dès maintenant. Voilà, c'est parti ?
C'est parti.
Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour.
Je suis ravie d'être ici, chez toi, à Paris. Tu es cinéaste, écrivain et un des auteurs les plus lus de la langue française. Tu as publié une vingtaine de romans et aujourd'hui, ce jour même, sort ton nouveau roman La Plus Que Vraie.
Ouais, ouais. Ce matin.
Ce matin, donc c'est incroyable qu'on fasse l'interview aujourd'hui. En plus, on a repoussé pas mal de fois parce que tu cours partout.
et ce matin, je suis descendu prendre un café en bas avec mon ordinateur et je passe devant un troquet. Et il y a un type qui se lève et qui me dit « Bonne chance pour votre livre et bonne chance pour votre amour. Bon Canada, j'espère que vous reviendrez. Mmh. » Je trouve ça tellement joli. Mais les gens sont vraiment beaux. Ils sont naturellement beaux si on ne les coince pas.
Si on ne les coince pas, c'est-à-dire ouais.
C'est-à-dire que je pense que naturellement, l'être humain a envie d'être extrêmement heureux, de vivre de très grandes amours. Il y a quelque chose de grand chez nous, dans notre espèce. Et l'époque l'oubli, l'époque déconne, elle propose rarement des chemins à la bonne hauteur, à la hauteur de soi, à la hauteur de la vie. Et tout ce que je fais, que ce soit en publiant un livre ou en fondant des associations ou en menant ma propre vie amoureuse, c'est d'essayer d'être à la hauteur de la vie, de ne pas la louper.
Tu viens de nous le dire, tu parles souvent beaucoup d'amour dans tes livres, etc. L'amour est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Et très récemment, tu viens de tomber amoureux d'une Canadienne. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça ?
J'ai réussi ma vie. Je ne l'ai toujours pas vue, puisque ça fait 8 mois qu'on s'écrit et qu'on se parle. Mais on a été coincé par Covid. J'ai terminé ce livre, La Plus Que Vraie, où j'ai jeté tout ce que j'attendais d'une vie amoureuse.
Et elle est arrivée ?
Et elle est arrivée. À l'instant où je terminais ce livre, voilà. Et j'ai fait un tweet, elle a répondu, un commentaire que j'ai trouvé d'une beauté incroyable. Je ne sais pas comment, je l'ai eu au téléphone. je ne sais plus comment, et au bout de 10 minutes, on savait qu'on allait vivre pour l'éternité ensemble.
C'est fou. C'est incroyable.
Et je lui ai juste demandé où elle était.
Oui.
Et elle m'a dit Waterloo. Je me suis dit Belgique. Elle m'a dit non, Waterloo, Ontario. Je lui ai dit pas de soucis, je viens vivre avec toi.
Comme ça?
Oui.
Donc tu pars vivre au Canada prochainement?
Oui.
C'est incroyable. Alexandre, on va revenir...
Mais je ne l'ai toujours pas vu.
C'est fou.
Et on vient d'acheter une maison.
Non, c'est pas vrai.
Si, on a signé la semaine dernière.
Et si finalement ça ne matche pas, comment ça se passe?
Mais ce sont des questions qui se posent dans un amour ordinaire et qui ne se posent pas dans un amour absolu.
J'aime tellement ta façon de voir la vie. On va rediscuter de tout ça. On va revenir à ton enfance avant tout. Alexandre, tu as grandi à Paris. Quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans? Est-ce que déjà tu étais curieux de tout et amoureux de la vie comme tu l'es aujourd'hui?
Je pensais que des choses extraordinaires allaient m'arriver. Et j'étais extrêmement léger et heureux. Puis ça s'est éteint à la mort de mon père, à 15 ans. Où là, tout à coup, je me suis raidi. Bon. Mais une enfance assez joyeuse, avec des parents cinglés. Papa était impraticable, c'était un fou. Je n'ai jamais vu un être humain vivre comme ça. Certaines années, il a écrit, il était scénariste, jusqu'à 17 films dans l'année. Il aimait trop de femmes, il vivait trop, mais il vivait. Je vivais en face de gens qui n'avaient pas la trouille.
Donc c'est cette éducation qui t'a donné ce goût prononcé pour la vie et pour la folie?
J'ai très vite compris qu'il était possible de vivre.
Ça veut dire quoi, vivre?
D'aller chercher la partie la plus vivante de la vie, la plus audacieuse, la plus en risque, que c'était pas si dangereux que ça. Qu'on pouvait dire la vérité, par exemple. Ce qui est le début de l'aventure, hein. De dire vraiment la vérité à ses parents, à ses amis, puisque je voyais des grandes personnes qui vivaient comme ça. Alors que je voyais que chez mes copains, c'était pas comme ça. Alors, enfin, je me posais des questions, hein. Mais je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de culpabilité dans ma famille.
Quel type de questions tu te posais quand tu étais enfant?
Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui osaient vivre, d'autres pas. Pourquoi il y avait des gens qui mentaient, d'autres pas. Mais pourquoi il y avait globalement une hésitation à s'engager vraiment dans une vie, à vivre un immense amour? Pourquoi si peu de vie?
Comment on s'engage pleinement dans une vie?
Quand on a eu la chance, comme moi, d'être très vite confronté à la mort. C'est-à-dire à 15 ans, j'ai compris que la fête était brève. Et que donc, il fallait dire les choses, il fallait les faire. Il fallait non pas dire « j'écrirai un jour », mais écrire. Non pas dire « j'aimerai un jour », non, il fallait aimer. Tout de suite, faire. Parce que le temps nous est beaucoup plus compté qu'on ne l'imagine. Donc, dès 15 ans, je me suis mis à turbiner. Et quand j'ai commencé à publier mon premier livre, que j'ai écrit à 20 ans, ça me semblait déjà très tard.
Oui. Tu as fait des études en sciences politiques et dès l'obtention de ton diplôme, tu dis que tu l'aurais déchiré, ce diplôme. Pourquoi?
Parce que je m'étais trompé. C'était un diplôme à Sciences Po. J'ai suivi une filière qui s'appelait ECOFI, Économie Finance, qui était en fait une école de gestion. Et j'ai compris que je n'étais absolument pas fait pour le monde de l'entreprise. C'était impossible. J'ai fait un stage. Je ne suis pas resté jusqu'au bout parce que ça me semblait intenable.
Qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce monde-là?
Il y avait un détail que je n'avais pas vu. C'est qu'on m'empêchait de sortir pendant la journée. J'étais censé rester dans un bureau. En fait, je n'y avais jamais vraiment pensé. Mais au moment où je me suis retrouvé enfermé dans un bureau, c'était à ne pas pouvoir disposer de mes allées et venues, j'ai cru que j'allais mourir. Et je me suis tout de suite proposé comme coursier, j'avais un scout, pour pouvoir sortir de la boîte.
Et donc, quand tu as 20 ans, comment tu imagines ta vie future? Comment tu perçois la vie des grands?
Je savais qu'il y avait beaucoup de place. C'est-à-dire, je savais que l'improbable arrivait, que ce qui peut sembler extraordinaire, en fait, existe. Donc, je m'attendais tout le temps à ça. Mais j'étais ultra pressé.
Pressé de quoi?
Que les choses arrivent. Je voulais aimer, vraiment. Je voulais... Comme souvent, les adolescents qui ont perdu ou leurs parents ou un des deux, on sait qu'il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et je ne comprenais pas pourquoi la majorité de mes copains restaient au bord. Ils restaient au bord. La plupart de mes potes vivaient de petites amours. Mais je ne comprenais pas, quoi. Mais vous êtes fous, quoi.
Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas rester sur le bord?
Pour moi, c'est...
Qu'est-ce qui fait qu'on vit à demi-mesure, finalement?
Pour moi, la grande matrice, c'est la vie amoureuse. C'est dès lors qu'on s'engage complètement dans un amour, mais jusqu'à la folie, il y a quelque chose en nous qui se libère fondamentalement. Pour moi, c'est la grande matrice.
Donc pour toi, sans amour, on ne peut pas vivre pleinement?
Pour moi.
Intéressant.
Pour moi, c'est vraiment la matrice. Si j'aime petitement, je sais que je vais globalement vivre petitement.
Ton premier roman, tu nous l'as dit, tu l'as écrit à 20 ans, quand tu étais encore étudiant. Ce roman, il s'appelle « Bille en tête » et tu as gagné le prix du premier roman. Et en 1999, tu crées l'association « Lire et faire lire » qui fait découvrir aux plus jeunes le plaisir de lire. Alors, qu'est-ce que la lecture apporte au monde ? En quoi c'est important d'initier les jeunes à la littérature ?
C'est ce qui répare une société. En fait, si on veut vraiment réparer toutes les fractures, on transmet le plaisir de la lecture aux enfants. Parce que, d'abord, lire et faire lire, aujourd'hui, fait lire 750 000 enfants, avec 20 000 bénévoles, c'est une énorme machine. Et on va faire une nation de lecteurs, un peuple de lecteurs. En demandant aux anciens, aux vieux, d'aller faire le boulot. Dans les écoles maternelles, les écoles primaires. Et pourquoi ça répare toute la société ? Parce que, dès qu'on remplit de mots un gosse, d'abord, il échappe à la violence. On sait qu'il y a un lien très étroit entre un vocabulaire très faible et la violence physique. On le fait basculer dans une vie amoureuse différente, s'il a des mots. Non plus strictement pulsionnels, mais élaborés. On le rend employable. Ensuite, si cet adolescent est en colère, il va faire un syndicat, il va faire un parti, il va faire une pièce de théâtre, il va faire quelque chose. S'il n'a pas de mots, il va taper. Et puis, on a un énorme problème d'intégration des nouveaux Français. Et lire et faire lire, c'est l'intégration tendre. C'est une mamie qui passe du temps avec un petit. Le petit, il n'aime pas le drapeau français, il s'en fout. Il aime la dame. Et une fois qu'il aime la dame, il lui file un dessin. Et si la dame avait des a priori sur l'immigration, elle les perd, puisqu'elle est aimée. Au moment où elle fout le dessin sur son frigo, avec un magnète, elle change de regard. Donc c'est un programme d'intégration réciproque par la tendresse autour des livres. Et lire et faire lire, c'est une réponse. Ça fait tomber les a priori, ça crée du lien très puissant. Et quand la dame loupe la séance de lire et faire lire le jeudi, elle se fait engueuler par les petits. T'étais où ?
Tu parles de réparer la société.
Oui.
Qu'est-ce qui cloche pour toi dans la société actuelle ?
Beaucoup de choses. On a des problèmes de système. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre qui on veut à l'Élysée, tout le monde sait très bien que ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que les gens votent de moins en moins, quoi. Que les jeunes votent si peu, au fond, ils le savent. Et c'est un système hyper centralisé français, un des derniers systèmes hyper centralisés au monde, et ça ne marche pas. Ça crée une sorte d'aristocratie d'État qui en réalité gouverne. Les ministres obéissent beaucoup plus à l'État que l'inverse. Donc, au fond, la décision politique au moment des élections n'a pas beaucoup d'influence sur la marche réelle de la société. Et les gens, ils connaissent pas le détail du truc, mais dans la réalité, ils le sentent, quoi. Donc, on a un problème de système. Et je me suis dit, en attendant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends une explosion ? Et les explosions, il y en a eu plein. Hein. Les gilets jaunes, les trucs. Et il y en aura. C'est pas un problème de personne. C'est vraiment un problème de système. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai commencé à fonder des associations avec un principe tout simple. Trouver des gens qui, sur le terrain, réparent une fracture de la société et obtiennent des résultats. Et bâtir des extensions nationales.
Avec Bleu, Blanc, Zèbre.
Ouais. Le mouvement des Zèbres, ça a été ça. Le rassemblement de gens que j'appelle des faiseux, c'est des gens qui n'ont pas un discours, mais une action. Et moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, et là, je vais en mettre deux fois plus, parce qu'on va accélérer sur les questions éducatives. Qui sont les questions qui m'intéressent le plus. Il me semble que gouverner pour de vrai, c'est pas gouverner des fonctionnaires, c'est bâtir des solutions éducatives. Puisque, en fait, tous nos problèmes de société sont des problèmes d'éducation.
Qu'est-ce qui manque à l'éducation d'aujourd'hui ?
D'abord, elle a trop lieu dans les institutions. Et on parie pas assez sur la créativité dans la société. C'est-à-dire, quand on pense éducation nationale, université. Mais dans la réalité, il y a une hyper-créativité de la société. Et c'est un peu ça que je vais commencer à essayer d'accélérer, de mettre en ordre. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une solution, il faut la monter vraiment. Deux exemples très cons. J'habite à Paris, ce matin, sur les chantiers pour réparer les toits de Paris, il manquait 500 personnes. 500.
Rien que ça.
Couvreurs capables de faire des toits en zinc, c'est-à-dire des artisans géniaux, quoi. Quand un jeune est embauché dans ce secteur, les jeunes ne savent pas, quand il sait rien, il est embauché à 1500 net par mois. Au bout d'un an, il est à peu près à 3500. Et après, les gens se mettent à leur compte et ça se balade entre 9 et 10 000 euros par mois. Tout ça pour avoir des métiers de gens libres, qui vivent dans un environnement sublime, parce que là-haut, c'est un des plus beaux endroits du monde. Pourquoi ? Parce que au lycée, on nous a tous appris, en gros, que c'était les mauvais qu'on envoyait là-dedans. C'est un système de dingue. C'est vraiment un système de dingue. C'est-à-dire que avoir un vrai métier, une vraie compétence, qui fait de soi quelqu'un de libre, n'est pas valorisé par notre société. Le rêve étant de que le système se reproduise et qu'on devienne tous des bureaucrates. C'est vraiment un truc de dingo. Bon, pensez l'éducation en dehors des systèmes. Je vais aider à la construction de plus en plus de programmes qui vont résoudre les problèmes éducatifs en France.
Et si tu devais rajouter une ligne ou un chapitre dans les cahiers d'école des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais instaurer ?
Je miserais tout sur la lecture.
Bah oui, forcément.
Mais tout, tout. Ouais. Je connais un institut génial dans une banlieue d'Aix-en-Provence qui prend des CM1, CM2. Chaque année, il leur fait découvrir un auteur contemporain. Les gosses lisent toute son œuvre, pas deux livres, tout. Et ils en font un spectacle géant, à base de comédie musicale, de masques, de trucs. Ils occupent l'école et à la fin de l'année, ils invitent le type ou la fille. Mais l'expérience pour ces gamins fait que d'abord ils ont compris qu'un auteur c'était pas un livre mais une œuvre, une globalité. Il a au vrai sens du terme élevé tout le monde quoi. Oui, moi je miserais à fond tout le petit âge, j'en ferais des fous de bouquins, mais des fous, des dingues, des goinfres. Les grands pays, ce sont les pays de gens qui sont remplis de mots. C'est la clé quoi.
Alexandre, on dit de toi que tu ne vis pas à 100 à l'heure, mais à 300 à l'heure. Est-ce qu'on savoure plus la vie en vivant vite ?
Non, pas toujours. Il n'y a qu'un seul être humain qui me ralentit pour de vrai, c'est celle que j'aime. Je peux mettre sur WhatsApp avec elle pendant 2-3 heures et méditer avec elle ou respirer avec elle. Je ne savais pas que je pouvais faire ça avec l'être aimé. Et j'avais encore moins imaginé que je ferais ça avec une ontarienne.
Que tu n'as jamais vue.
Oui, que je n'ai jamais vue.
Tu aimes bien une phrase de Sandrine Viassier, « Soyons fous, sinon on va devenir dingue ».
Ah oui.
Tu aimes la folie. Comment elle se manifeste chez toi au quotidien, cette folie ?
Par des initiatives. Vraiment par des initiatives.
Quelle est l'initiative la plus folle que tu aies entreprise dans ta vie ?
Là, c'était la semaine dernière.
Ouais.
D'acheter une maison avec une femme que je n'ai jamais vue.
C'est vrai que c'est assez fou quand même.
La notaire pleurait d'émotion, l'autre notaire aussi. Après nous avoir essayé de nous en empêcher, en nous expliquant qu'on était cinglés, qu'un truc. Et puis, c'est drôle, la notaire a essayé de me ralentir, et puis, c'est une amie. Et puis, à la fin, quand j'ai signé, elle a poussé un cri. Elle a fait « Ah, oh, comme c'est beau !» Aucun homme n'a jamais fait ça pour moi. Tout à coup, la fille est réapparue derrière la notaire.
Ah là là. Il paraît que tu es toujours en retard. Que tu n'arrives jamais à être ponctuel.
Pas toujours, parce que j'ai un scooter, donc quand même...
Et puis là, tu étais à l'heure, mais parce que c'est moi qui suis venu.
Oui, mais je faisais beaucoup de choses avant, depuis 5h30 ce matin.
Oui, oui.
Je préparais un projet géant pour Paris, aussi un projet de docu-fiction important. Et puis, je laissais des messages en Ontario, pendant qu'elle dort.
Mais alors, combien d'heures tu... Ok, il y a les livres qui me tombent dessus. Est-ce que tu arrives à dormir la nuit, en fait ? C'est surtout ça, ma vraie question. J'allais te demander combien d'heures tu dors, mais est-ce que tu arrives à dormir ?
Je suis contre.
Contre dormir ?
Oui. Non, je suis contre parce que je vis en décalage horaire, puisque je vis à l'heure de l'Ontario. Non ?
Oui, mais je crois que même avant cette rencontre, tu dormais très peu.
Oui, mais là, ça m'a achevé.
C'est la goutte de plus, là.
Le sommeil n'a aucun intérêt. Je dormirai ma vie plus tard.
Mais t'es pas fatigué la journée ? Parce que je sais que moi, personnellement, quand je dors pas bien la nuit, la journée, je savoure beaucoup moins parce que je suis pas reposée.
Non, je savoure, mais parfois je tombe. Parfois je m'effondre et je tombe sur le lit et je m'endors.
En pleine journée ?
Oui.
Ok. Il y a Jean-Paul Antoven qui dit de toi que tu as cette capacité à rendre l'improbable possible. Comment on cultive cette aptitude ? qui est quand même relativement chouette.
J'essaye.
Tu essayes, tu y arrives ?
Oui, et en général, des choses ont lieu. Quand on dit quelque chose qui a du sens, en général, on n'est pas le seul à s'en rendre compte. Donc, ça met en mouvement. Je suis très surpris par le nombre de choses qui se font tout simplement parce que je vais le demander. Souvent, on n'ose pas. Quand j'avais 18 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre. J'essayais de monter ma pièce, j'allais voir des directeurs de théâtre qui me foutaient dehors, qui me prenaient pour un god de l'euro, qui me viraient. J'y arrivais pas. Bon, du coup, j'ai envoyé ma lettre à Jean Anouilh. Ma lettre, ma pièce. Jean Anouilh, l'auteur d'Antigone. Et il me répond. Et je lui demande de m'aider. Il me dit OK. Et il envoie une lettre à un immense acteur de théâtre, qui est Michel Bouquet. Et je vais voir Bouquet au théâtre de l'Atelier à Paris. Et je lui dis, voilà, c'est Jean Anouilh qui m'a dit de venir vous voir. Et il me dit, je sais, j'ai reçu une lettre d'Anouilh. Il lit la pièce et il me dit, je vais la jouer. Mais si je n'avais pas demandé, ça n'aurait pas eu lieu. C'est absolument incroyable. Mais en fait, quand on s'assied 2 minutes, évidemment qu'il fallait honorer les gens. Arrêter de les traiter comme du menu fretin. En plus, ce sont des jeunes qui ont encore plus besoin de valorisation.
Réussir sa vie, c'est quoi pour toi, Alexandre ?
C'est aimer une femme.
On y revient toujours.
Ah oui, non mais c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Le reste, on fait de son mieux.
Ou aimer un homme.
Oui, oui, mais pour moi. C'est aimer. C'est indéniablement ça. C'est se réveiller, émerveillé par l'autre, ébloui par ce qu'il devient, ébloui de vivre à un certain niveau avec l'autre.
Comment on aime vraiment quelqu'un ?
Alors, quand j'ai écrit La Plus que Vraie, je croyais tout ce que j'écrivais. Et puis j'ai assez changé de point de vue depuis ma femme canadienne. J'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Que lorsqu'on est vraiment en face de l'être pour qui on est né, il n'y a plus rien à faire. Tout se fait. Il n'y a plus de décision à prendre. Ça se fait tout seul. Je n'ai pas décidé d'aller en Ontario. C'était comme ça. On n'a pas décidé d'acheter cette maison. Ça s'est fait. Et au fond, c'est comme s'il y avait un changement de paradigme complet. Je n'ai pas décidé de lui être fidèle depuis 8 mois. Ça se fait et c'est de l'ordre de l'évidence. Et je crois que le propre d'un immense amour, c'est que ça décide à notre place. On le vit moins qu'on est vécu par cet amour.
Et il se cherche cet amour ou il nous tombe dessus ?
Il faut l'accueillir. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à l'immense. Si on ne laisse pas l'immense rentrer dans notre vie, c'est pour ça que je suis aussi heureux de publier ce livre. Parce que je crois qu'il faut publier des livres qui disent que cette taille d'amour existe. Au fond, il faut publier des livres, faire des films, écrire des chansons, qui disent que les contes disent la vérité. Parce qu'on vit tellement dans une époque qui dit l'inverse et qui résume tout à un acte de consommation, comme s'il fallait tout consommer. Or, c'est pas terrible de consommer un être humain. Je veux dire, moyen. Accepter, faire de la place pour que la grâce entre dans notre vie. À force d'écrire sur l'amour absolu, on le fait venir.
Et pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas ce goût pour l'écriture, comment ils pourraient faire venir l'amour au-delà ?
Lisez.
Par la lecture, ok.
Lisez. Méditez. Faites de la place. Demandez à la vie de l'immense, et il y aura de l'immense. Si vous demandez du minable, il y aura du minable. Ayez cette joie-là. Cette joie prémonitoire. Attendez-vous à ce que le sublime vous tombe sur le coin de la gueule. Parce qu'en fait, on est construit pour ça. Notre mécanique psychique, émotionnelle, physique, biologique, est faite pour, elle n'est pas faite pour des histoires de naze. Sinon, les contes n'auraient jamais été écrits.
Pour toi, la joie, elle permet tout. Comment la cultive, cette joie, au quotidien ?
En n'hésitant pas. Si on veut faire quelque chose, on décroche son téléphone. On y va. Au pire, on nous raccroche au nez. Pas très grave. On prend un ticket de métro et on y va. On rentre par la fenêtre. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie.
Parce qu'il y a des histoires que tu racontes qui sont fausses.
Parfois, oui.
C'est non.
Oui, si, parfois. Parce que quand j'ai été dans des moments de ma vie où le réel me décevait trop, je racontais des histoires qui n'étaient pas exactes. Parce que j'étais tellement déçu par la réalité. Mais qui est une histoire vraie Je vous invite à aller voir ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah.
Ok, je mettrai les liens.
Une femme qui s'appelle Hélène Wexler, W-E-K-S-L-E-R.
D'accord, je vais retrouver
Hélène
tout
Wexler.
Ça.
Et elle raconte que sa mère et son frère ont été arrêtés par la police française et sont enfermés au Veldiv, une famille juive. Que fait-elle? Elle ne le supporte pas. Elle a 15 ans, elle va à la commandanture, au siège de la Gestapo, et elle veut voir le patron. On la fout dehors. Mais elle avait une étoile jaune, donc elle est totalement cinglée. Quoi. Mais elle ne le supporte pas. Elle guette, elle s'aperçoit que le matin, vers 6 heures, il y a un changement de garde. Elle se faufile dedans. Elle est dans le bâtiment, elle demande où est le bureau du chef. Elle rentre dans le bureau du chef et elle l'attend. Le mec arrive, patron de la Gestapo, voit une fille juive dans son bureau de 15 ans. Il hallucine. Et la fille dit, Hélène dit, vous avez arrêté ma mère et mon frère. Je ne le supporte pas. Vous allez les libérer. Le mec lui hurle dessus, elle raconte tout ça, une scène épouvantable d'injures, de trucs. Elle écrit le nom de sa mère et de son frère, mais au péril de sa vie. Normalement, le mec aurait dû la faire arrêter tout de suite, quoi. Elle aurait dû être déportée dans l'instant. Elle fait face. Et le lendemain, sa mère et son frère sont libérés. Plus tard, ils ont été attrapés, ils sont partis pour Auschwitz. Eux sont morts, mais elle a survécu. Mais à 15 ans, c'est une scène. Je veux dire, on écoute ça, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Il y a des êtres qui n'ont pas hésité à exister.
Tu as le sentiment qu'il y a plus d'êtres qui osent exister ou qui n'osent pas?
Non, on est mal élevés tous. On n'est pas élevés dans l'idée qu'il faut y aller. Il faut y aller.
Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt? Que la vie t'a appris au fil des années, mais qui t'aurait permis d'aller peut-être plus vite ou de plus savourer les choses si tu l'avais su plus
dise...
jeune?
Dans les moments où je me perds, parce que je suis comme tout le monde, j'ai des moments où je me perds, où je fais n'importe quoi, où... ça nous arrive à tous. Médite. Rentre à l'intérieur de toi.
Tu médites tous les jours?
Maintenant, oui. Fais de la place intérieure en toi pour que la vie surgisse, pour que le meilleur surgisse.
Comment tu médites et combien d'heures par jour? Combien de minutes plutôt quand même?
Je pense à elle. Et elle est tellement vaste que ça m'ouvre... L'aimer m'ouvre vers quelque chose de plus vaste.
Donc tu ne méditais pas avant de la rencontrer?
Non.
Alexandre, si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Passez à l'acte. Vous voulez créer une boîte, faites-la. Vous voulez créer une asso, faites-la. Ne vous posez jamais la question des moyens. Les moyens arrivent toujours pendant qu'on agit. Si on pense qu'il faut réunir des conditions, qu'il faut avoir le bon diplôme, qu'il faut avoir je ne sais quoi, on est fou. Il faut d'abord agir. Et je dis ça parce qu'on vit dans un monde complètement cinglé où on n'a pas arrêté de rallonger les années d'études.
C'est
comme
vrai.
Si on allait être mieux formé en 5 ans qu'en 3. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ce qui nous forme, c'est l'action. Donc, en fait, on repousse tout le temps. Alors, évidemment, on met des périodes de stage, des trucs. Mais le vrai problème des périodes de stage, c'est que c'est comme si on faisait un peu semblant.
On repousse à plus tard le moment de rentrer dans
oui,
la vraie vie.
Oui. Moi, je ferais tout l'inverse. Gagnez votre vie le plus tôt possible. Même si vous continuez vos études. Ne restez pas dans une vie fictive. C'est un vrai problème des études. Hein.
Alors, parce qu'on a peur de rentrer dans cette vie des grands quand on est jeune.
Et le système n'est pas fait pour, en plus. C'est-à-dire qu'on ne nous incite pas. Hein. Alors, on nous incite un peu en apparence, en mettant des stages, des trucs. Des... Et là, tout à coup, les institutions se disent, tiens, on a fait notre devoir pour les... Non, il faut y aller pour de vrai. Il faut publier vite, si vous voulez écrire. Et si vous ne trouvez pas d'éditeur, dans l'auto-édition. Faites.
Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire?
On commence.
On commence quelque part.
Oui. On commence quelque part. Au fond, ce n'est pas très important ce qu'on va faire en premier. Ça engage beaucoup moins que vous ne le pensez. D'abord, 10 ans après, le diplôme qu'on a fait ne compte quasiment plus. Sauf dans des métiers ultra techniques. Mmh. Mais faire tout de suite. Et pas la semaine prochaine. Tout de suite. Tout de suite. Là, vous éteignez. Hop, vous allez voir la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave. Vous allez voir la première personne qui peut vous aider.
C'est comme ça que j'ai lancé le podcast.
Oui, voilà. Et il va en découler beaucoup plus de choses. D'abord, on s'aperçoit que les gens finissent par dire oui.
C'est vrai, ça.
C'est vrai, hein. La preuve. Quand on demande les choses d'une certaine manière, bizarrement, on est entendu. Il y a ceux qui le sentent spontanément. Il y a ceux à qui il faut le dire, tout simplement. et à peu près tout le monde est atteignable, contrairement à ce qu'on croit.
C'est merveilleux. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu auras un mot de la fin à nous dire pour conclure cette interview ?
Goinfrez-vous de bouquins.
Ah, c'est un très beau mot de la fin, celui-là, je l'aime beaucoup.
Mais goinfrez-vous. N'en lisez pas un. Là, sur ma table de nuit, il y en a plein.
Ouais, il y en a tellement.
Je les lis ensemble.
Ah, tu lis plusieurs livres en même temps ?
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Alexandre.
Bonne journée.
Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.